avec joie de se retrouver, de pouvoir entrer dans ces moments d'exaltation, ces moments de louange, de reconnaissance, et surtout aussi des moments, voilà, de témoignages. Vos témoignages nous ont beaucoup touchés. Que le Seigneur continue d'œuvrer dans la vie de chacun, révéler sa puissance et sa souveraineté à chacun et que nous puissions vraiment continuer à lui faire confiance et à demeurer ferme, même si souvent nous traversons des difficultés. Comme tu l'as bien décrit au niveau de ta présidence, que oui, il y a un renoncement à faire dans la foi, mais c'est pour notre bien. Si le Seigneur nous a aimés, c'est pour notre bien et quelles que soient les circonstances que nous vivons, nous devons garder la confiance en lui en tout temps. Voilà, donc je vais juste partager mon écran et retrouver le PowerPoint que j'ai préparé pour qu'on puisse mieux, voilà, s'exhorter. Et ce matin, le Seigneur m'a guidé aussi dans la méditation sur un thème concernant la pensée, penser différemment. Penser différemment veut simplement, c'est une continuité de ce que du thème que nous avons abordé pendant la formation. Je vous ai partagé le 20 juin concernant la Bible comme autorité fonctionnelle et nous avons médité Ézéchiel qui nous invite à nourrir de la parole comme du miel qui est doux, qui nous fait du bien, qui guide l'ensemble de notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions encore continuer avec le thème de l'adoration, qui fait partie, voilà, de l'ensemble des thèmes que nous avons abordés durant la formation des responsables et peut-être les jours à venir, la formation des disciples, et l'évangélisation, la solidarité ou la compassion que nous n'avons pas abordé. Nous essaierons, en tout cas, d'essayer vraiment de travailler sur ces axes parce que la rentrée, nous allons développer des contenus sur tous ces thèmes-là, thématiques, pour pouvoir vraiment bâtir notre vie d'église sur la parole et sur ces thématiques. Romains 12, versets 1 à 2, pensez différemment. Nous allons lire et après nous allons commencer. Romains 12, versets 1 à 2. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Jusque-là, la parole de Dieu. La vie nouvelle en Christ nécessite nécessairement un renouvellement de notre intelligence. Steve Jobs, que vous connaissez, c'est un grand entrepreneur américain qui a créé aujourd'hui les outils que nous utilisons tous, les téléphones iPhone, iPad, Apple, et donc qui existe aujourd'hui, qui a transformé le monde. En 1997, il était presque en faillite. Et Steve Jobs est revenu sur tout ce qu'il a pu entreprendre dans sa vie avec difficulté et il a fait un constat. Il a dit, maintenant je vais penser différemment. Et lorsqu'il a relancé son entreprise, lorsqu'il a relancé sa vie, oui, ça, tous les ordinateurs qu'il a pu créer, fabriquer, cela a eu un impact dans le monde. C'est devenu un slogan emblématique d'Apple pour la demi-douzaine d'années suivantes, parce que Steve Jobs était convaincu qu'il pouvait changer le monde avec ses produits. Et voici une personne dans sa maison a eu l'idée de changer le monde. Avec quoi? Avec son produit, avec une conviction. Et cela a été une réalité aujourd'hui. Ça a changé nos habitudes, même si ça n'a pas changé le monde, ça a changé nos habitudes et ça a permis à développer beaucoup de choses qui peuvent faciliter aujourd'hui notre vie. Et si nous allons rester dans cette logique de sa pensée, que lui, il a voulu changer afin d'impacter le monde, à plus forte raison, Dieu, en changeant notre pensée, pourrait changer notre quotidien, notre vie et notre existence et aussi peut-être notre communauté et l'ensemble de notre vie et l'environnement là où nous vivons. Dieu veut changer notre pensée, transformer notre pensée afin de transformer notre vie et l'ensemble de notre réalité quotidienne. Qu'est-ce que Dieu veut changer dans notre vie ce matin? En écoutant cette parole, chacun de nous peut se poser simplement cette question. Qu'est-ce que le Seigneur veut changer dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut changer dans ma vie? Après avoir exposé la doctrine des grâces, de la création d'un nouveau peuple par la foi en Jésus-Christ, dans le chapitre 1 à 11, Paul invite les chrétiens à vivre le message d'une manière pratique. Là, ce que nous apprenons dans la parole de Dieu est aussi lié à ce que nous pouvons pratiquer. Paul expose la doctrine et ensuite il donne des possibilités comment nous pouvons mettre cela en pratique. C'est vrai, nous savons que la grâce nous a permis de rentrer dans le salut, de vivre le salut et d'être accueillis dans la nouvelle création que Dieu a créée comme un peuple qui l'appartient par la foi en Jésus-Christ. Mais maintenant, comment notre vie peut pratiquement prendre de l'essor, vivre cette réalité de la grâce et aussi en tant que nouveau peuple de Dieu? Dans leur relation avec Dieu comme une adoration. Paul veut que les chrétiens vivent le message d'une manière pratique dans leur relation avec Dieu comme une adoration et les uns avec les autres comme la conséquence de notre nouvelle vie avec Dieu. Si nous vivons notre relation avec Dieu comme une adoration, cela va aussi avoir de l'impact avec notre entourage, avec notre prochain, avec notre communauté, notre Église, comme une conséquence de notre nouvelle vie avec Dieu. C'est ça qui montre que réellement notre vie a été changée, nos pensées, notre intelligence a été changée à la gloire de Dieu. Ensuite, Paul exhorte fortement à maintenir l'unité dans le corps de Christ par le lien de l'amour. Si notre pensée est renouvelée, et que nous vivons la grâce et que nous sommes le nouveau peuple de Dieu, cela veut dire réellement que nous allons vers quelque chose qui va nous maintenir dans l'unité, dans le corps et aussi dans l'amour. Il n'y a pas un sans l'autre. Si nous sommes réellement le peuple, le nouveau peuple de Dieu, vivant dans la grâce et aussi dans l'amour, cela doit avoir un impact réel dans notre vie, dans notre Église. On doit sentir, voir l'unité et l'amour se manifester d'une manière pratique. Aussi, Paul clarifie que si nos vies sont transformées par Christ, elles transformeront également nos relations les uns avec les autres et nos vies vont refléter Christ dans le monde. Le monde ne peut connaître Christ simplement par la proclamation de la parole, mais le monde veut voir comment les chrétiens vivent leur foi d'une manière ordinaire et d'une manière quotidienne, comment nous vivons notre foi. Et c'est ce qui intéresse le monde, c'est ce qui va impacter le monde, c'est ce qui va transformer le monde. Steve Jobs, dans sa chambre, a dit « Comment je vais faire pour que les produits que je vais faire émerger puissent impacter le monde, puissent toucher le monde, changer le monde ?» Et Christ veut plus que notre vie puisse impacter le monde, notre réalité quotidienne puisse impacter le monde. Pour poursuivre ce but, Paul exhorte les Romains à apprendre à discerner trois principes de la véritable adoration. C'est dans l'adoration, dans ces trois principes d'adoration, que nous pouvons réellement vivre la réalité de ce que nous pouvons dire comme une adoration. Comment vivre la véritable adoration? Chacun de nous, ce matin, peut se poser la question, est-ce que je vis une véritable adoration avec mon Dieu? Est-ce que pendant mes vacances ou dans mon lieu de travail ou dans ma maison, est-ce que réellement je vis une véritable adoration avec mon Dieu et avec ma foi? Premièrement, le premier principe, c'est qui est bon selon Dieu, selon Christ. Paul invite les Romains à discerner qu'est-ce qui est bon selon Christ. Qu'est-ce qui est bon selon le Dieu que j'ai choisi de suivre, que j'ai choisi de faire confiance, que j'ai choisi de m'engager pleinement. Nous avons vu dans la présidence, Giuliano nous rappeler l'engagement, la nécessité de l'engagement. Celui qui garde sa vie, celui qui a honte de moi n'est pas digne de moi, c'est ce que la parole dit. Et ça nécessite un engagement total, corps, âme, esprit, ce qui est bon selon Christ. Ensuite, ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît à Christ. Qu'est-ce qui plaît à Christ dans ma vie? Dans mes actions, dans mes projets, dans mon attitude, qu'est-ce qui plaît à Christ? Et qu'est-ce que peut-être qui ne plaît pas, que je devrais peut-être abandonner, que je devrais peut-être évacuer, que je devrais demander la grâce de Dieu de pouvoir transformer cela en ce qui est bon et ce qui plaît à mon Seigneur et à Jésus-Christ. Troisièmement, ce qui est parfait selon Christ. Trois principes, ce qui est bon selon Christ, ce qui plaît à Christ, et ce qui est parfait selon Christ. Voici le discernement que Paul appelle aux Romains de faire. Et peut-être ce matin, le Seigneur nous appelle, vous appelle, et chacun de nous, à faire le discernement, ce qui est bon, ce qui plaît à Christ, et ce qui est parfait selon Christ. Premièrement, ce qui est bon selon Christ. Penser différemment, c'est tout d'abord discerner ce qui est bon selon le Christ. Jean 4, verset 24 nous dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par l'esprit et en vérité. Penser différemment, c'est discerner d'abord ce qui est bon selon Christ. Notre Dieu est esprit et ça commence toujours au niveau de notre réflexion, de notre intelligence. Qu'est-ce qui est bon selon le Christ? Et si j'arrive à trouver ce qui est bon selon Christ, c'est en ce moment que réellement je peux plaire à Dieu et je peux arriver à une véritable adoration. Ce qui plaît à Christ, discerner ce qui est bon, nous dit ce verset que notre Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Cela veut dire que ce n'est pas l'habillage qui est une véritable adoration. Ce n'est pas ce que nous allons prendre comme instrument, comme la façon, l'attitude, le fait de se mettre à genoux, de le faire devant les rues. Ce n'est pas ça qui est la véritable adoration. La véritable adoration s'intéresse d'abord à ce qui est dans notre pensée, à ce qui est dans notre cœur. Au moment que nous nous adressons à Dieu, Dieu veut voir notre cœur. Dieu ne veut pas simplement voir une croix autour de notre cou. Dieu ne veut pas simplement voir peut-être nos mains levées et nos genoux à terre. Dieu veut voir en réalité qu'est-ce qui est dans mon cœur. Qu'est-ce que je viens, mon attitude devant lui, est-ce que réellement c'est pour une véritable adoration ou juste c'est une représentation religieuse? Que le Seigneur nous aide à sonder nos cœurs lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous adorons le Seigneur, que quel que soit dans la prière, quel que soit dans nos actes, quel que soit dans ce que nous vivons, que cela puisse se faire dans une bonne attitude à la gloire de notre Seigneur. Penser différemment, c'est mettre Dieu au centre de sa vie ordinaire et quotidienne. Ce n'est pas d'une manière simplement exceptionnelle, comme le dimanche matin. Ce matin, on se retrouve ensemble, on est heureux de se retrouver, de communier ensemble, mais c'est plus que ça. Dans ma vie ordinaire et quotidienne, est-ce que je mets le Christ au centre de ma vie? Est-ce que le Christ gouverne réellement ma vie? Luc 18, verset 19 nous dit, alors un notable lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? » Lui répondit Jésus, « Personne n'est bon sinon Dieu seul. » Luc 18, verset 18 à 19, nous dit clairement que Dieu seul est bon. Et en mettant Dieu au centre de notre vie, en mettant Christ au centre de notre vie, ça veut dire que nous avons quelque chose de bon au centre de notre vie. Ça veut dire que nous avons le pilier, l'essentiel de notre vie en nous et qui nous fait du bien quotidiennement. Penser différemment, c'est penser à l'œuvre de la croix du Christ pour nous. Qu'est-ce que la croix du Christ a dans ta vie, a comme impact dans ta vie, a comme impact dans notre vie? Est-ce que nous croyons que la croix est une sagesse pour nous, une source de délivrance pour nous, une source de paix pour nous, une source de vie éternelle pour nous, ou bien la croix est simple, est quelque chose de symbolique, quelque chose de passager qui a été fait simplement, ou peut-être même qui n'existe pas. Comme le dit 1 Corinthiens 1, 23, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Rejeté par les Juifs et folie pour les Grecs. Parce que la croix pour eux, c'est une folie. La croix pour eux, ça n'a pas de sens. Combien de personnes aujourd'hui croient que la croix du Christ n'a aucun sens dans leur vie? Combien de personnes, lorsqu'on parle de Christ crucifié, ils parlent comme quelque chose d'insensé? Combien de personnes nous prennent comme des insensés qui croient que Dieu va amener une personne sur une croix à cause de nous, à cause de moi, à cause de vous? Que le Seigneur puisse avoir de l'impact dans notre vie en nous faisant de telle sorte que la croix soit une réalité, une sagesse dans notre vie, parce que le Christ a payé le prix à la croix. Nous étions comme des brebis errants, des brebis qui sont perdus, mais le Christ, par sa croix, est venu nous racheter, nous chercher, afin que nous puissions faire partie de son peuple pour l'adorer en vérité et en esprit. Penser différemment, c'est discerner ce qui est bien en orientant nos pensées, nos choix de la vie ordinaire et quotidienne à la lumière de l'amour de Christ et de sa parole. Philippiens 4, verset 8 nous dit « En effet, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et ce qui mérite louange. » Le Seigneur nous invite ici, à travers Paul, en Philippiens 4, 8, de nous, de nourrir nos pensées. Parce que en nourrissant nos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est honorable, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est digne d'amour ou d'approbation, c'est cela qui va nous amener réellement à vivre une vie épanouie en Christ, d'une manière ordinaire, d'une manière quotidienne, parce que nous jaugeons notre vie à la lumière de l'amour du Christ et non à propos de nos propres pensées ou à propos de nos propres désirs. Ce qui est bon selon Dieu, ce n'est pas ce qui est bon selon moi. Ce qui est bon pour Dieu, ce n'est pas ce qui est bon selon ce que l'autre pense. Qu'est-ce qui est bon pour, selon Dieu pour ma vie, pour notre Église, pour notre famille? C'est cela qui est important. Ce n'est pas ce qui est bon pour moi. Peut-être je peux penser que quelque chose est bon pour moi. Pourtant, c'est complètement le contraire. Ce n'est pas du tout bon pour moi. Comme la parole le dit. Vous, vous êtes des hommes. Mais si votre enfant demande un œuf, est-ce que vous allez lui donner un serpent? Non. Votre enfant, s'il demande un œuf, vous allez lui fournir un œuf ou du pain. Vous n'allez pas lui mettre quelque chose de dangereux dans ses mains. Et c'est la même chose avec le Christ aussi, avec nous. Le Christ nous donne toujours des choses qui sont bonnes selon lui pour nous et pour notre Église et pour notre vie. Dieu est bon. Nous vivons selon son caractère bon. Et nous reflétons comme un Dieu bon dans le monde, dans la société. Psaume 145, verset 9 aussi appuie dessus en disant, Psaume 145, verset 8, l'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Notre Dieu est bon, et sa bonté se reflète à travers ses œuvres, ses actes. On ne peut pas savoir que Dieu est bon sans qu'il n'agisse. C'est à travers ses actions qu'il montre, qu'il démontre et qu'il prouve aux hommes, aux habitants de la terre, que lui, il est bon. L'homme bon tire des bonnes choses de son cœur et de ses œuvres, de ses actes. Par tes actes, on reconnaît si tu es bon ou si tu n'es pas bon. Que le Seigneur nous aide à refléter des actes bons pour refléter que nous sommes réellement de ce Dieu bon. Et nous avons la parole de ce Dieu bon qui pour s'aimer dans le monde et que cette parole puisse avoir de l'impact, sauver des vies, transformer des vies, guérir des âmes et permettre que l'Évangile continue à rayonner à travers nous dans le monde. Si nos pensées sont conduites et dirigé par le Saint-Esprit, nous serons toujours attirés vers le bien, l'amour et l'unité. Ce qui prouve que nous sommes réellement conduits par le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit ne va pas nous conduire vers le mal, mais il va nous conduire toujours vers le bien. Il va nous conduire vers l'amour. Il va nous conduire vers l'unité. Le Saint-Esprit ne va jamais nous conduire vers la division, vers la haine, vers les disputes, vers des choses qui n'est pas à sa gloire. Je peux me demander, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me conduit ou c'est ma chair, mon égoïsme qui me conduit? Si dans le quotidien, je mets Dieu au centre de ma vie. Dans chaque décision, dans chaque action de ma vie, je peux me poser la question, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me dirige ou bien c'est moi-même qui me dirige à travers ce que je suis en train de faire? Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, nous dit 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Examinez toutes choses à la lumière de la parole. Et en se posant la question, est-ce que Christ est au centre de ma vie? Est-ce que le Saint-Esprit me conduit en ce moment? Au moment où je suis en train de parler, est-ce que le Saint-Esprit est en train de me conduire ou de faire un choix ou de prendre une décision? Que le Seigneur nous conduise par son esprit et par sa présence afin que toutes les bonnes choses qu'il a préparé d'avance pour nous puisse être l'objet de nos désirs, de nos choix et de la direction de notre vie quotidienne et ordinaire. Le deuxième principe, c'est ce qui est chercher ce qui est parfait selon Dieu. Qu'est-ce qui est parfait selon Dieu? Dieu aime un engagement sincère, une adoration en esprit et en vérité. Dieu aime une adoration sincère. Une adoration sincère est une adoration réellement où mon engagement est total, mon esprit est engagé et mon être est engagé. Dieu aime lorsque il voit ses enfants qui s'engagent pleinement. Simplement, ce n'est pas simplement notre corps qui est là et notre esprit est ailleurs, mais c'est notre être entier qui est engagé, qui est totalement dans ce que nous faisons. Dieu aime un engagement sincère, une adoration en esprit et en vérité. Dieu aime une adoration persévérante dans le temps et dans l'espace, pas simplement circonstancielle et occasionnelle. Comme il est dit dans Matthieu 6, verset 13, « Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable, car à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. » Dieu nous montre ici dans ce texte que son règne, ce n'est pas juste limité dans le temps ou dans l'espace, car à lui appartient la gloire à jamais, à toujours. Son règne, c'est là où il est, partout où il est, partout où nous sommes. Le Seigneur veut que notre adoration soit d'une manière persévérante, partout où nous sommes. Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, au travail, le Seigneur veut nous voir dans l'adoration. Tout ce que nous faisons, nous l'exposons devant lui comme une adoration, comme un don, comme une offrande. Dans mon travail, je commence en offrant le travail à lui. Seigneur, mon travail est une offrande pour toi. Ma vie de famille est une offrande pour toi. Et partout, mes vacances sont une offrande pour toi. Je me repose, mon sommeil est une offrande pour toi. Je me couche et je m'endors parce que je sais que le Seigneur est là et il va continuer à me fortifier, à me renouveler et à me donner sa force. Donc, savoir ce qu'il veut ce qui est bon et ce qui lui plaît, ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu réellement pour nous? Dieu aime une adoration naturelle, stylisée, ancrée dans notre vie, de sorte que Christ soit véritablement dans notre vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dieu aime une adoration là où lui-même est celui qui vit et celui qui agit, celui qui honore son nom à travers notre vie. Dieu veut voir Christ en nous, Christ reflété dans notre vie au niveau quotidien, que ça devienne un style de vie, notre façon de vivre puisse transparaître non seulement devant les hommes, mais aussi surtout devant lui. Qu'est-ce que Christ, est-ce que Dieu voit Christ en nous? Est-ce qu'il voit la vie de Christ en nous au quotidien, au travail, ou bien il voit Abdou à l'église autrement qu'à la maison, ou il voit Abdou dehors autrement qu'au niveau qu'il est à l'église? Et là, le Seigneur veut transformer ça, qu'il voit toujours Christ en moi, à travers partout où je suis, que je suis à la maison, que je suis au travail, que je suis dans la rue, en vacances. Le Seigneur veut voir, Dieu veut voir Christ, la vie de Christ reflétée en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dieu aime une adoration empreinte d'humilité et de simplicité avec une foi vivante, nous dit Matthieu 8, verset 10. Matthieu 8, verset 10. Il veut voir une adoration qui est pleine d'humilité, qui est pleine de simplicité, comme un enfant, comme dans ce texte, nous voyons que le centenier, le Seigneur s'est tressailli de joie en voyant la foi de ce centenier. Il a dit qu'en Israël, je n'ai jamais vu un homme aussi rempli de foi. Il a dit simplement, Seigneur, moi j'ai des centaines de soldats sous mon commandement. Simplement, je l'ai dit, fais ceci, cela, et c'est exécuté. Toi, je sais que tu es Dieu, tu es souverain, et tu peux simplement, à partir de là, à une dizaine de kilomètres, dire au malade d'être guéri, et cela va être fait. J'ai foi que tu peux le faire. Et lorsque Jésus a entendu ça, voici un homme qui m'adore, voici une adoration qui me plaît, parce que c'est plein de simplicité et aussi plein d'humilité et de foi, une foi vivante. Le Seigneur veut voir une foi rayonnante, une foi vivante, plein de simplicité et empreinte d'humilité dans notre vie. Il n'a pas cherché à aller de gauche à droite, je vais rouler le tapis rouge devant ma porte pour que tu puisses rentrer. Non, je vais envoyer des soldats faire de l'escorte pour que tu puisses venir guérir mon malade et ma fille. Non, il a simplement dit, donne un ordre, tout simplement, et cela sera fait, parce que tu es souverain et tu es capable. Qu'est-ce que le Seigneur veut voir ce matin dans ma vie et dans votre vie pour apprécier, qui va lui plaire, qui va honorer son nom, qui va dire, voilà un enfant qui m'aime, voilà un enfant qui vit dans un style de foi et d'obéissance, et dans un style de simplicité et d'humilité. Si nous marchons selon l'Esprit, dans l'obéissance de la parole de Dieu, nous réjouirons aussi le cœur de notre Père Céleste. Est-ce que tu veux réjouir le Père du Seigneur ce matin? Est-ce que tu penses que tu peux réjouir le cœur de ton Père Céleste ce matin, à travers ta vie, à travers réellement ton style de vie et à travers ton adoration, tu peux réjouir le cœur de ton Père ce matin? Si cela est ta décision, c'est une adoration qui plaît à Dieu. C'est une adoration qui va le réjouir. Non, une adoration qui va lui déplaire. Que le Seigneur nous donne toujours cette grâce de chercher à plaire à notre Seigneur, de chercher à lui faire plaisir, qu'il puisse se dire, voici mes enfants qui font des choses qui me plaisent. Afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père, n'aient pas honoré le Fils, ce n'est pas honorer le Père qui l'a envoyé. Nous dit Jean 5, verset 23, celui qui honore le Père honore aussi le Fils. Celui qui refuse d'honorer le Père, ça veut dire qu'il déshonore aussi le Fils. Celui qui refuse d'honorer le Fils déshonore aussi le Père. Que le Seigneur nous donne aussi la sagesse, la force, la capacité d'honorer le Père, le Fils, le Saint-Esprit à travers notre vie. Certains choisissent d'honorer le Père uniquement, pas le Fils. Et on se dit, voilà, nous sommes aussi des chrétiens, mais ils refusent d'honorer le Fils, ne reconnaissent pas le Fils en tant que Fils. Certains choisissent simplement, nous choisissons le Fils, pas le Père. Nous connaissons le Fils, mais pas le Père. Et le Seigneur nous dit à travers cette parole que nous devons honorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est là que notre adoration plaît à Dieu, notre offrande plaît à Dieu et notre culte plaît à Dieu si nous adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela veut dire aussi que si nous refusons de reconnaître le Fils, c'est que nous n'avons pas le Père. Si nous refusons de reconnaître le Saint-Esprit, c'est que nous n'avons ni le Père ni le Fils, parce que le Saint-Esprit est envoyé par le Père et le Fils en même temps. Et les trois personnes sont un, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. La dernière, c'est notre conclusion, qu'est-ce qui est parfait? Ce qui est parfait, tout ce que nous avons dit peuvent être parfaits si réellement nous discernons ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu. Parce que ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu est parfait, parce que notre Dieu est parfait. Orienter nos pensées vers ce que Dieu veut est toujours parfait, car notre Dieu est parfait. Si nous orientons nos pensées, de notre vie, notre réflexion, notre façon d'orienter notre vie, si cela est bon selon Christ et si cela plaît à Christ, cela veut dire que tout est parfait. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous sommes parfaits devant le Christ lorsque nous avons le Christ en nous. Parce que Christ nous regarde en tant que ses enfants parfaits. Non pas la perfection que nous avons acquis, mais la perfection dont lui, il est l'auteur, dont sa nature réellement est empreinte de perfection. Le Christ nous invite à nous laisser modeler par la bonté, sa grâce et son amour, car le monde est imparfait et la vision du monde est orientée naturellement vers le mal, l'imperfection. Le monde est orienté déjà naturellement, sans aucune aide à quelque chose vers le mal. Le mal sera toujours considéré comme bien et le bien sera toujours considéré comme mal. Vous entendez les dernières nouvelles, de certaines nouvelles des choses qu'on déclare que c'est bien, qu'on est en train de reculer dans nos valeurs parce que pour eux, c'est ça, ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est nous considérons selon la parole que ce n'est pas bien pour nous ni pour l'humanité parce que Dieu veut du bien et du bon pour les hommes, pour l'humanité. Le Christ nous invite à nous laisser modeler par sa bonté, sa grâce, son amour, car le monde est imparfait. Si nous nous laissons modeler par le monde, la pensée du monde, l'orientation de la vision du monde, nous allons toujours naturellement de plus en plus vers le mal. C'est pour cette raison que Paul nous invite à engager tout notre corps, esprit et intelligence à Christ pour un culte raisonnable, une adoration qui lui plaît. Paul lit la théorie à la pratique. Si vous connaissez la pensée de Dieu à travers la parole, maintenant, il faut l'appliquer. Il faut orienter sa pensée. Il faut s'engager, non seulement l'intelligence, mais aussi le corps, mais aussi l'esprit, mais tout notre, la réalité de notre existence à Christ est centrée sur lui. C'est là que nous avons réellement un culte raisonnable, une adoration qui lui plaît et qui honore son nom. Tout ce que Christ veut pour nous est bon, parfait, agréable, quelles que soient les circonstances. Si le Seigneur a permis quelque chose, c'est que c'est bon, c'est que c'est parfait, c'est que c'est agréable. C'est pourquoi tous ceux qui pensent que Dieu est bon et qui ont placé leur confiance en lui, en ce Dieu bon, sont aussi d'accord et se soumettent naturellement à ce qu'il fait. S'il arrive, le Seigneur décide quelque chose, nous nous soumettons à sa parole parce que nous savons que le Seigneur ne va pas nous donner quelque chose de mauvais. Il va toujours nous donner quelque chose qui est bon, qui est parfait, qui est digne de louange et qui honore son nom. Notre adoration devient de plus en plus parfaite lorsque nous progressons aussi dans l'engagement et la soumission de notre volonté, de notre intelligence, de notre corps, de notre esprit, de notre volonté à Christ. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait selon lui. Progresser dans la vie chrétienne, croître dans la vie chrétienne, devenir de plus en plus rempli de la force de Dieu, de l'esprit de Dieu, c'est aussi s'engager complètement, c'est soumettre non pas simplement une partie, je soumets mon corps, mais pas mon intelligence. Je soumets mon intelligence, mais pas mon corps. Et le Seigneur veut le tout entier, notre être tout entier à lui, à soumettre à sa volonté, soumettre tout notre corps à la volonté de Dieu et tout notre être entier à la glorieuse, parfaite bonté de notre Seigneur. C'est là que nous allons voir que nous progressons. Nous avançons dans la connaissance de notre Seigneur. Et aussi, il se manifeste pleinement, il se manifeste avec la foi qu'il a placée en nous, afin que tout son nom soit honoré et glorifié. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est bon, tout ce qui est, je vais relire dans le texte, m'a échappé. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est... Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? Je n'arrive pas à le voir ici.
Alors, je peux?
Oui.
Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Amen. Merci, Jocelyn. Que tout ce qui est tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Voici le projet de vie que le Seigneur nous donne. À travers nos pensées, la culture de nos pensées va transformer notre être entier, transformer notre entourage et impacter notre environnement et donner gloire et honneur à Dieu. C'est ce qui est la véritable adoration. Que le Seigneur nous donne cette grâce de progresser dans la véritable adoration. Adorer Christ en esprit et en vérité, c'est adorer Christ à travers nos pensées, à travers notre corps, à travers notre être entier, à travers tout ce que nous sommes dans le quotidien, dans l'ordinaire. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde cette force de pouvoir progresser dans la foi, de ne pas rester au statico, comme l'exemple que j'ai pris au début avec Steve Jobs. En 97, il était au bord de la faillite. Il a fait des nuits d'insomnie et il s'est dit, il faut que je renouvelle ma pensée, il faut que je pense différemment, sinon je ne vais pas y arriver. Le Seigneur veut aussi que nous pensions différemment pour que notre vie soit transformée et notre vie spirituelle soit une vie spirituelle attrayante et une vie spirituelle qui déplace les montagnes. Et il ne veut pas simplement que nous soyons au statico depuis 1997 jusqu'à 2021. On est au même niveau de notre connaissance du Christ et de notre progression dans la foi. Que le Seigneur nous permette de croître et de l'adorer véritablement en esprit et en vérité. Prions. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes. Merci pour ce matin, ce thème que tu as mis dans notre pensée afin que nous puissions partager ensemble en Église. Seigneur, ta parole nous dit que d'être renouvelé dans notre intelligence, tu nous dis, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon et ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Seigneur, merci pour cette parole et nous te demandons, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que tu touches le cœur de chacun, que tu transformes l'intelligence, l'être intérieur et le corps de chacun afin que nous puissions ensemble t'offrir comme une offrande, Seigneur, notre culte, notre adoration, que cela puisse te plaire, que tout ce qui est bon selon toi, tout ce qui te plaît et qui est parfait, soit l'objet de notre attention, que nous puissions te placer au centre de notre vie non pas simplement circonstancielle, mais de notre vie quotidienne et de notre vie ordinaire, que nous puissions vivre un style de vie des disciples, de ceux partout où nous sommes, que nous puissions rayonner partout où nous sommes, que nous soyons des disciples réellement ancrés, qui laissent transparaître le Christ en nous, sa parole en nous, sa vérité en nous, sa pureté en nous, parce que tu nous dis dans ce texte que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, Seigneur, soit l'objet de nos pensées, soit l'objet de notre vie, soit l'objet de notre style de vie, Seigneur. Que ton Saint-Esprit modèle nos pensées, notre vision du monde à la façon du Christ, au modèle du Christ. Ne permet pas que nous soyons modélés en fonction de ce monde, en fonction des principes de ce monde, en fonction, oui, des valeurs de ce monde, mais en fonction de tes valeurs. Tes valeurs sont éternelles. Tes valeurs existent à toujours. Et tes valeurs, ô éternel, sont le bien de notre vie et de ce monde. Seigneur, bénis et bénis tous ceux-là, éternel, qui n'ont pas encore, oui, éternel Dieu, découvert cette réalité de ta valeur et des principes de ce qui est bon, de ce qui te plaît et de ce qui est parfait. Seigneur, permets-les par ta grâce de découvrir que, oui, éternel, tu as de bonnes choses pour eux, tu as de meilleures choses pour eux, et tu as un projet de bonheur et non de malheur pour chacun de ces personnes, Seigneur. Que ces personnes qui ne t'ont pas connu puissent te découvrir, te connaître et vivre pleinement cette grâce que tu nous as donnée ce matin de vivre. Et nous te demandons aussi de relever ceux qui sont fatigués, ceux qui se sentent vraiment au statico, Seigneur. Renouvelle encore par ton Saint-Esprit que tu relèves ces personnes et que tu les permettes d'avancer, de croître en toi, de grandir en toi et de permettre s'épanouir, oui, dans la foi chrétienne, parce que la foi chrétienne, c'est de bonnes choses, c'est une vie meilleure, c'est une vie qui attire, attrayante et une vie épanouie. Seigneur, merci parce que tu as déjà accompli par l'œuvre de ton Esprit à cause de ta croix et à cause de ton amour pour chacun de nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.
Amen.